VOA Afrique, les infos à Washington.
John Lyndon, bonsoir et bienvenue à tous. Tanzanie, le candidat malheureux à la présidentielle appelle ses partisans au calme après avoir menacé en fin de semaine dernière de déclencher des manifestations si la commission électorale locale ne revenait pas sur sa décision d'annuler les récentes élections. Le chef de l'opposition sur l'archipel tanzanien semi-autonome de Zanzibar est revenu sur son appel. Seif Sharif Hamad, vice-président de Zanzibar et chef du principal parti d'opposition de l'archipel, le Front civique a demandé à ses partisans d'attendre de voir comment progressaient les négociations sur un possible accord concernant le résultat des élections du 25 octobre avant de descendre dans les rues. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a officiellement proclamé la réélection du sortant Alassane Ouattara pour un mandat de 5 ans. Idriss Fall.
Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel, a donc proclamé Alassane Dramane Ouattara élu dès le premier tour du scrutin du 25 octobre. Il a réalisé un score de 83,66%. La Cour a validé les chiffres déjà proclamés par la CEI sur les suffrages exprimés et le taux de participation de 52,86%. Cette confirmation de la plus haute instance judiciaire a une valeur symbolique très forte après les violences post-électorales de 2010-2011. M. Ouattara devrait être investi d'ici la mi-novembre. Pendant la campagne, il s'est engagé à faire reculer le chômage et continuer l'électrification du pays. Sur le plan politique, il a promis une réforme de la Constitution. Des élections législatives doivent avoir lieu dans les deux prochains mois, mais la date précise n'est pas encore annoncée.
En Centrafrique, l'Autorité nationale des élections a entamé depuis jeudi dernier des consultations avec les parties prenantes en vue de l'élaboration d'un nouveau chronogramme électoral. Mais pour certains partis politiques de l'opposition, les élections ne pourront pas avoir lieu avant fin décembre 2015. Les explications de Joseph Bendunga, président du parti MDREC, au micro de Félix Yebaziz Zembro.
Devant la triste réalité que nous a produite l'Autorité nationale des élections, nous nous sommes retrouvés devant un chronogramme anachronique.
C'est-à-dire
l'exemple le plus frappant, les candidats aux élections présidentielles et aux élections législatives battront campagne pendant 9 jours. Ce n'est que 2 jours avant la fin de la campagne que la liste définitive candidats sera affichée. Il y a le chevauchement des dates. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, sur 1 300 000 fiches, c'est à peu près 1 million de fiches qui ont été traitées. Dès que les drafts qui seront affichés seront corrigés, à partir de ce moment, l'ANE enverra ce draft corrigé-là, qui devient la liste électorale définitive, à Copenhague, le centre d'édition de la liste électorale définitive, et des cartes d'électeurs. Tous ces documents seront renvoyés à Bangui et les cartes d'électeurs seront distribuées aux électeurs. Est-ce que cette opération, qui n'est qu'à son début de commencement, en 2 mois, nous allons le réaliser pour qu'il puisse avoir élection? C'est ce document-là, sa finalisation, qui permettra au gouvernement, à la chef de l'État de la transition, de convoquer le corps électoral. Au jour d'aujourd'hui, à peu près 4 mois après le début du recensement électoral, nous ne sommes qu'à la phase d'enrôlement seulement. Alors, est-ce que les élections se tiendront avant fin 2015? Je dis non. C'est ainsi que toutes les parties prenantes à cette concertation, du cadre de concertation, ont rejeté en bloc la proposition de l'autorité nationale, nous demandons à l'autorité nationale des élections de revoir sa copie et de nous proposer un chronogramme, un calendrier électoral qui puisse répondre aux besoins des élections en République centrafricaine.
Joseph Bendunga, président du MDREC, un parti politique centrafricain. Au Burundi, 8 membres présumés du groupe armé ont été tués et 18 faits prisonniers dans la province du Bujumbura rural qui surplombe la capitale burundaise. Lors des premiers affrontements signalés dans cette région depuis le début de la crise actuelle au Burundi, les autorités désignent sous le terme de criminels armés les membres d'une rébellion naissante issue de la crise née fin avril de la contestation de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Au Mali, les bouchers de Tombouctou ont protesté ce lundi pour manifester leur mécontentement contre les attaques dont ils sont victimes de la part de certains bandits armés. Ils ont rencontré à cet effet le maire de la ville. Les implications de la rencontre avec Abdoulaye Traoré, journaliste de la radio Buktu à Tombouctou, joint par Modibo Ndembele.
L'information de ce matin, les bouchers qui sont sortis pour protester contre une situation qui a été durée, il s'agit en fait des bandits armés qui enlèvent les animaux des bouchers. Parce que les bouchers, ils paient les bœufs et ils donnent ça aux éleveurs. Bon, c'est ainsi que je crois que dernièrement, ça s'est passé aujourd'hui exactement ou hier. Il y avait un éleveur qui a été attaché et donc on l'a amené tout comme bétail. Et donc les bouchers sont sortis aujourd'hui pour venir voir le gouverneur, ensuite le maire de la commune de Tombouctou et pour protester. Parce que pour eux, trop c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. Et tout le temps, ils ont été dépouillés de leur propre argent. Mais aujourd'hui, c'est les animaux même, leur bétail est volé maintenant. Pas des hommes armés. Il n'y a pas assez de viande comme d'habitude. On ne peut pas dire qu'il y a une pénurie quand même, parce qu'il y a de la viande partout où j'ai passé.
Quelle est l'atmosphère actuellement en ville après la protestation des bouchers?
Ils étaient quand même sur les nerfs. Ils sont rentrés à la mairie, ils ont commencé à faire du tapage. Ils ont voulu même casser les fenêtres, les portes. Parce que le maire a rencontré quelques-uns de leurs responsables avec lesquels il a discuté pour aller toucher qui des droits, soit le gouverneur ou le commandant des hommes.
Quelle peut être l'incidence de telle situation sur le processus de paix qui est en train d'être discuté actuellement?
Ça entache quand même le processus de paix parce que lorsqu'on a signé les accords, aujourd'hui, en tout cas, tous les mouvements doivent rester sur leur position initiale. Quand on voit l'armée qui respecte sa position, et jusque-là, il y a des bandits armés, ben, je ne sais pas, il y a des groupes armés qui ne respectent pas en réalité ces mots d'ordre. Je crois que vraiment ça pose énormément de problèmes parce qu'en fait, je crois que c'est un problème, même pour la paix, c'est un problème pour la sécurité qui se pose exactement.
Abdoulaye Traoré, journaliste de la radio Buktu à Tombouctou. Seul un facteur extérieur peut expliquer le crash de l'Airbus A321 qui s'est écrasé en Égypte samedi matin. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui la compagnie russe qui exploitait l'appareil, rejetant la possibilité d'une erreur de pilotage ou d'une défaillance technique. Jacques Aristide.
Les causes de la chute de l'avion demeurent mystérieuses, mais en Russie, les soupçons se sont rapidement orientés vers Metrojet, modeste compagnie charter qui fait figure de coupable, désignée et a dû monter au créneau pour défendre sa réputation. Les dirigeants de la compagnie aérienne sont catégoriques. Leur avion était en excellent état. Ils ne précisent pas toutefois de quel type d'action extérieure il pouvait s'agir. Alors que la branche égyptienne du groupe djihadiste État islamique a revendiqué la destruction de l'Airbus samedi, ce qui a rendu les autorités russes sceptiques. L'appareil s'est écrasé dans le Sinaï avant-hier, 23 minutes après son décollage de Sharm el-Sheikh vers Saint-Pétersbourg. La catastrophe la pire jamais connue par la Russie a fait 224 morts. À Washington, le chef du renseignement américain James Cape a indiqué aujourd'hui qu'il n'y avait pas de signe pour l'instant qu'un acte terroriste était à l'origine du crash.
Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont déploré lundi le climat de violence de la campagne des élections législatives en Turquie et reproché au gouvernement ses pressions sur la presse indépendante. L'OSCE a par ailleurs condamné des interventions dans l'autonomie éditoriale des médias de la part du régime islamo-conservateur du président Recep Tayyip, Erdogan. Le parti de la justice et du développement de M. Erdogan a retrouvé dimanche la majorité absolue au Parlement turc qu'il avait perdu en juin dernier. Ce scrutin s'est déroulé sur fond de reprise du conflit kurde et 3 semaines après un attentat suicide attribué aux djihadistes qui a tué 102 personnes à Ankara. C'est la fin de ce bulletin d'information présenté par John Lindon depuis Washington. Retrouvez l'information dans 20 minutes. Ce sera Le Monde aujourd'hui.